Que ce soit dans des films, séries, émissions ou tout simplement lors d'une vente aux enchères, vous l'avez tous déjà vu brandir son marteau. Mais connaissez-vous réellement l'ensemble des aspects du métier de commissaire-priseur ? Héloïse de Baudus, la plus jeune commissaire-priseur de France, originaire de Lille, est avec nous pour nous les présenter et nous parler de son parcours. Bonjour Héloïse. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste le métier de commissaire-priseur ?
Alors, le métier de commissaire-priseur, c'est une vocation généraliste. Des fois, on compare ça un peu au médecin généraliste, mais pour les objets de manière très très vaste, parce qu'en fait, on doit avoir un œil expert assez global pour réaliser les inventaires chez les particuliers et les rendez-vous d'expertise à la salle des ventes. Donc, ça va aussi bien, on va aussi bien devoir se prononcer sur les bijoux que sur la mode, tout ce qui se trouve dans une maison, en fait, donc les meubles, les objets d'art, sculptures, peintures, les arts de la table, l'orfèvrerie, la céramique. Enfin, c'est extrêmement vaste et il y a aussi plein d'autres domaines comme le vin, les voitures ou si j'allais encore plus loin, c'est tout ce qui est matériel industriel, matériel professionnel. Donc voilà, le commissaire-priseur, c'est vraiment le professionnel qui va venir porter un regard expert sur les objets en pouvant les dater, identifier le matériau, l'état de l'objet et au regard de tous ces éléments pendant qu'on ausculte l'objet, on va pouvoir conclure à une estimation pour donner une idée à l'instant T de la valeur du bien sur le marché de l'art ou sur le marché des enchères en général. Et ensuite, donc, il y a cette casquette-là et puis ensuite, il y a la casquette promouvoir et organiser la vente aux enchères. Donc tout ce qui va se passer en amont pour arriver à la vente et le jour de la vente, tenir le marteau et faire monter les enchères en ayant assuré la promotion de la vente au préalable.
Alors comment est-ce que vous avez connu ce métier et quel a été votre parcours ?
Alors moi j'ai connu ce métier un peu par hasard, donc je commençais à me demander ce que je voulais faire quand j'avais 13-14 ans et en fait j'ai toujours beaucoup aimé l'art. Et c'est mon père qui m'a parlé du métier de commissaire-priseur. Donc il n'y en a aucun dans ma famille, je ne connaissais pas trop le métier. Et mon père avait un de ses amis d'enfance qui était commissaire-priseur. Et donc il m'a dit, bah, si tu aimes bien l'art, tu devrais creuser ce métier-là. Et donc après, spontanément, j'ai contacté pas mal de commissaires-priseurs pour en savoir davantage. Et assez rapidement, grâce au stage de découverte au collège et au lycée, j'ai pu découvrir l'univers des salles des ventes. Donc là, ça a concrétisé mon envie. Et donc très vite, je me suis renseignée sur le parcours. Et j'ai vu qu'il fallait à la fois une licence en droit et une licence en histoire de l'art au minimum. Donc je me suis tout de suite dit que ça allait me conduire à un parcours assez long. Donc je me suis renseignée pour voir s'il y avait des doubles licences. Et effectivement, il y en avait. Et donc moi, j'étais à la Sorbonne, à Paris 1. Et ensuite, j'ai quand même voulu poursuivre en master. Il y en a très peu qui présentent l'examen de commissaire-priseur sans master. Et au final, j'appréhendais un peu le droit avant de commencer les études. Et c'est ce qui m'a passionnée pendant la licence. Donc j'ai poursuivi en master de droit de la propriété intellectuelle, puis droit du marché de l'art, toujours dans la même fac à Paris 1. Et ensuite, j'ai présenté donc, l'examen de commissaire-priseur. En fait, c'est un examen d'abord d'entrée avec des écrits. Si on est reçu aux épreuves écrites, donc qui sont des dissertations de droit et d'histoire de l'art, eh bien, on est admissible pour les oraux qui ont lieu un mois après. Le concours est organisé une fois par an. Et donc, pendant les oraux, donc, il y en a quatre, de l'anglais, du droit, de l'histoire de l'art et tout ce qui est plus économie, comptabilité, gestion. Et à l'issue de cette journée de quatre oraux qui se tient à l'école du Louvre en plein jardin des Tuileries, donc on sait si, enfin le lendemain, on sait si on est reçu ou pas. Et donc, on devient élève commissaire-priseur. Donc, c'est un peu comme les élèves avocats. On devient élève pendant 2 ans et les 2 années sont ponctuées de 5 semaines de formation chaque année. Et il y a, donc c'est pas fini niveau examen, il y a l'examen intermédiaire à l'issue de la première année et l'examen final à l'issue de la deuxième année. Donc c'est celui que je viens de passer, enfin que j'ai passé l'an dernier en novembre 2023. Les examens intermédiaires et finaux, eux, ils sont très pratiques. Donc en fait, on est en plein cœur du 9e arrondissement à Paris, dans l'hôtel Douraud. C'est un endroit où il y a beaucoup de ventes aux enchères au quotidien. Et donc dans une salle, on a 20 objets à expertiser en 1h30. Donc ça, ce sont vraiment les épreuves sur lesquelles on est testé à l'issue de la première et de la seconde année pour véritablement qu'on puisse voir notre capacité à avoir un œil expert sur le maximum de choses. Et donc, à l'issue de ce dernier examen, on est commissaire-priseur, donc diplômé et habilité à diriger des ventes volontaires, donc les ventes entre particuliers. Et pour ma part, par exemple, j'ai suivi une prépa d'été intensive avant de présenter l'examen en octobre 2021. Et donc la prépa d'été, c'est aussi pour remettre à niveau et bien réétudier le droit, mais sous l'angle des ventes aux enchères, et reparcourir toute l'histoire de l'art, vu que le programme du concours, c'est vraiment l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours, et toutes disciplines confondues, donc à la fois les beaux-arts, peinture, sculpture, architecture, mais aussi les arts décoratifs, les arts appliqués.
Et à la sortie d'études, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés ? Est-ce que c'est facile de se faire sa place ?
Alors, c'est quand même un métier de niche parce que, dit comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle d'un pays, c'est pas énorme. Il y a à peu près 800 commissaires-priseurs en France. répartis sur tout le territoire. Donc c'est quand même une profession de niche. Et je dirais que c'est pas évident forcément de trouver une place à la sortie. Pendant longtemps après les études, malheureusement, quand on voit passer des offres d'emploi en tant que jeune diplômé, il y en a beaucoup qui veulent nous recruter comme catalogueurs ou clerc, donc plus faire de l'administration des ventes, et ce même quand on est diplômé commissaire-priseur. Donc pour trouver un vrai poste de commissaire-priseur à la sortie de l'examen, c'est pas toujours évident. Et j'allais dire, il y a cet attrait pour Paris. Tout le monde veut rester à Paris, en région parisienne. Mais donc, ça fait que le marché là-bas est très, très concentré. Donc, les places ne sont pas forcément évidentes à trouver, notamment quand on veut un véritable poste de commissaire-priseur. Et là, effectivement, en région parisienne, c'est un quart des maisons de vente françaises. Donc, il y a à peu près 450 maisons de vente en France. Donc, quand même une forte concentration à Paris. Mais je dirais que c'est plus simple de trouver un poste en région, parce que là, il y a un vrai besoin, une vraie demande. Et pour le coup, là, on est vraiment recruté à des postes de commissaire-priseur. Contrairement à Paris, en région, il y a une moins forte densité de maisons de vente. Ce qui fait que par ricochet, chaque maison de vente a une clientèle plus vaste en ayant vraiment un maillage territorial assez fort. Même si on est basé à Lille, on est amené à faire des inventaires dans toute la région. Mais c'est vrai que c'est plus ça le challenge en sortie de diplôme, c'est de trouver un véritable poste de commissaire-priseur qui réponde à ce pourquoi on s'est formé et tous les efforts qu'on a fournis. Et malheureusement, ça, c'est pas toujours le cas directement à la sortie du diplôme.
Justement, pour vous, comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous vous situez?
Alors, moi, du coup, j'ai fait une pause après avoir été élève commissaire-priseur pendant 2 ans. Et j'ai notamment fait une pause, on en reparlera, mais pour créer mon podcast. J'avais aussi envie de faire quelques petits projets journalistiques. Donc, je faisais un peu des interviews de commissaire-priseur, justement, pour enrichir mon expérience et avoir un regard plus vaste sur la profession. Et là, donc, je vais bientôt reprendre un poste. Je pourrais en dire plus prochainement, mais en tout cas, je vais bientôt reprendre un poste dans la région. Mais donc voilà, de mon côté, j'avais cette envie d'exercer en région et j'avais très très envie de pouvoir exercer dans ma région d'origine. Donc je suis lambersartoise, donc voilà, j'ai toujours grandi aux alentours de Lille et dans le Nord. Ça fait écho à ce que je disais, mais c'est vrai que c'est, je pense, plus simple de trouver dans sa propre région, vu qu'on a déjà un réseau, des contacts.
Alors vous venez de le dire, vous avez lancé votre podcast Objectum.
Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je vous propose un voyage à travers le monde de l'INERT.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, donc j'avais envie de démocratiser le métier, parce que c'est vrai que paradoxalement, on n'a jamais autant parlé du métier de commissaire-priseur, notamment avec les émissions qu'on voit à la télé qui sont extrêmement suivies. Mais malgré cette mise en lumière du métier, je trouve toujours qu'on n'en parle pas de la manière la plus adéquate, vu qu'il y a encore toujours un peu des discours qui viennent glamouriser le métier, donner une impression d'inaccessibilité des salles des ventes. Donc le podcast Objectum, c'était vraiment à l'origine plus pour montrer qu'on pouvait avoir de tous les prix en salle des ventes. Et puis en réfléchissant autour de ça, donc je me demandais quel angle d'attaque choisir. Et c'est là que je me suis dit que le meilleur angle d'attaque, c'était vraiment les objets, vu qu'au final, c'est le cœur de notre métier. Si au quotidien, on est en lien avec les vendeurs, les acheteurs, les experts et tout un tas de personnes, ce qu'on côtoie le plus au quotidien, ça reste les objets, les œuvres d'art. Et donc, Objectum, c'est parti de là. Je me disais, j'ai envie de format court, accessible et agréable à écouter. Donc, en écrivant en avance un peu les scripts pour qu'il y ait quand même une forme de narration et une trame dans chaque épisode. Et donc, là, Objectum, il y a déjà une saison finie avec 10 épisodes. Donc, chaque épisode, c'est entre 5 et 15 minutes à peu près. Et là, je viens de commencer la deuxième saison. Et donc, il y a déjà 3 épisodes et un hors-série. Et donc voilà, ma volonté, c'était vraiment des formats accessibles pour parler des objets du quotidien et justement bien insister sur ces objets du quotidien, ne pas parler d'objets que tout le monde n'a pas chez soi, d'objets rares qui vont être très durs à trouver en salle des ventes, très chers. Je voulais vraiment parler d'objets qu'on est susceptible d'avoir croisés chez soi, chez ses grands-parents, dans la famille et sur lesquels on ne s'arrête plus forcément. Donc à chaque fois, en gros, la trame de chaque épisode, c'est vraiment dans un premier temps, je parle de l'objet, j'explique ce que c'est, j'essaie d'analyser en termes de matériaux, donner un petit contexte artistique, un contexte historique, et ensuite j'analyse toujours un peu la cote de l'objet aux enchères pour prouver qu'on peut le dénicher à moindre coût en salle des ventes, et donc insister sur le fait qu'en salle des ventes, on est tout à fait libre de simplement venir voir par curiosité, et même d'enchérir et de remporter des objets, mais pas forcément pour des prix qui sont inaccessibles. Et là, pour donner des exemples, en objets que j'ai traités, il y a eu le parapluie, le test vin, le flacon à sel, donc c'est un petit flacon de parfum. Après, je me suis intéressée à l'art des poilus, donc c'est l'art que faisaient les soldats dans les tranchées. Des fois, j'essaie aussi de faire des objets un peu pop culture. Donc là, j'en avais fait un sur le trophée du César, mais en me disant, je veux vraiment en parler sous l'angle technique, comment est fabriqué le trophée du César. Donc en faisant les recherches, je me suis aperçue qu'il était fabriqué en Normandie, dans une fonderie familiale. Enfin vraiment, rester sur l'histoire de l'objet, mais parfois faire des ponts avec ce que j'aime. Donc là, en l'occurrence, j'adore le cinéma, donc le César, c'était vraiment une opportunité de parler d'un objet plus pop culture, mais en des termes techniques. Et là, ce qui est chouette, c'est que je m'aperçois que les objets, c'est quand même un sujet qui rassemble, qu'on a tous un peu cette fascination pour les objets, des objets qui nous parlent. Donc en l'occurrence, pour le César, j'avais invité Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse, qui venait de remporter le César du meilleur premier film. Donc voilà, Objectum, c'est à la fois parler des objets, mais aussi partir à la rencontre des autres, et notamment en développant les formats hors série pour parler de sujets qui me touchent, comme l'écologie, la seconde main, tout en ayant cette idée d'avoir les objets vraiment comme star du podcast et qui reste mon sujet de prédilection.
Pourquoi, pour vous, est-ce que c'est important de raconter et de connaître l'histoire des objets?
Justement, je pense que c'est dans une logique, je parlais d'écologie là, mais de réenchanter le quotidien et de s'apercevoir que pour s'émerveiller, on n'a pas besoin forcément de parcourir des kilomètres ou de chercher à avoir que des chefs-d'œuvre. Enfin, effectivement, il y a les musées qui sont superbes, mais les salles des ventes, c'est un rapport aux objets encore autre et même encore plus intime que dans les musées. Et donc, je pense que c'était ça l'intérêt du podcast, c'était de se dire, c'est très important de garder toujours un œil curieux sur ce qui nous entoure, ce qui est proche de nous, et même sur les choses qu'on ne voit plus spécialement. Et effectivement, je pense qu'il y a un intérêt à se reconnecter à l'histoire. Et moi, c'est vraiment l'angle d'attaque dans le podcast. Et donc, il y a l'histoire avec un grand H qu'on apprend à l'école, qu'on voit dans les musées, qui est fascinante. Mais il y a aussi la petite histoire, donc qui est celle plus du quotidien, de l'évolution des habitudes au fil des siècles, au fil des décennies. Et ça nous reconnecte aussi à la vie qu'avaient nos ancêtres. Et parfois, avec des objets qui, d'apparence, sont hyper anodins. Là, je parlais du parapluie. J'ai vraiment cette idée de me dire, je vais choisir des objets qu'on a tous chez soi, qu'on a tous au moins vu une fois, pour venir réenchanter un petit peu le quotidien et réapprendre à être curieux de ce qui nous entoure et de ce qui est proche de nous.
Comment faites-vous pour retracer l'histoire d'un objet ?
Tout à l'heure, j'employais le mot ausculter et je pense que c'est le mot que j'aime le plus pour décrire ça. On va avoir l'objet entre les mains. On peut aussi donner un premier avis sur photo, mais le cœur de notre métier, c'est vraiment d'être en lien avec les objets directement. Et on va chercher tous les indices qui viennent nous dire quelle est la date de l'objet, quelle est son histoire, quelle est sa provenance géographique notamment. Donc dès qu'on tient un objet entre les mains, on l'observe vraiment sous toutes les coutures. On va regarder son matériau. Le matériau va pouvoir nous renseigner sur une manufacture, une région de production, que ce soit en France ou dans le monde. Et on va regarder aussi les traces du temps, les usures. Pour un tableau, on va regarder si la surface picturale est un peu écaillée, s'il y a des craquelures. Et tout ça, ça va venir nous renseigner sur la datation. Et puis bien sûr, après, on regarde s'il y a des signatures, des marques de manufacture. Et on essaie d'en tirer le maximum de détails de cette observation pour pouvoir conclure à une époque. Et une fois qu'on a tout ça, ça nous permet de nous positionner par rapport au marché, de dire tel objet, est-ce qu'à l'heure actuelle il est recherché ou pas. Et donc on va toujours donner un prix sous forme de fourchette estimative. Ça sera jamais un prix fixe. Dans tous les catalogues de vente, c'est toujours une fourchette d'estimation qui vient dire à l'instant T, cet objet vaut à peu près tant sur le marché des enchères. Donc voilà, grâce à tous les détails qu'on aura observés.
C'était Héloïse de Baudus, commissaire-priseur. Si vous souhaitez écouter son podcast Objectum, alors rendez-vous sur YouTube ou Spotify. Un reportage réalisé par Anel Kaden pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.